Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, ou même très, très loin. Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
C'est 23.
L'essentiel de Paul Arcand. Tout ce que vous devez savoir en moins de 60 minutes.
Nous sommes mercredi 10 novembre. Bonne journée et bienvenue au 98.5. Profitons de ces deux journées, aujourd'hui et demain, parce qu'il y aura du soleil. Aujourd'hui, c'est 11 degrés. Ce matin, c'est très confortable. La nuit prochaine, pas trop chaud. Un minimum autour de 1 degré. Et jeudi, on prévoit là du soleil, 7 degrés. Vous voyez que ça se refroidit doucement. Et dans la soirée et la nuit, ben là, on entre dans un cycle de pluie. Vendredi, peut-être 15-20 mm de pluie, du temps gris. Samedi, encore là, 10 mm possiblement de plus. Et ça va s'atténuer un peu dimanche. Mais vraiment, là, du temps plutôt sombre, de pluvieux pour la fin de semaine à partir de vendredi, là. Mais aujourd'hui et demain, c'est du soleil, 11 et 7 degrés. On parlait de ces cas d'agression sexuelle. Tous les matins, on fait une espèce de survol des infos régionales, voir qu'est-ce qui se passe au Québec. Puis avant de plonger dans la revue de presse pure de ce matin, là, je regardais ça. Là. On parlait de Michel Brûlé, on parlait de Michel Venn qui a été condamné à 6 mois de prison. Et je rappelle que la victime, Léa Clermont-Dion, était mineure à l'époque où les gestes ont été posés et que Michel Venn était en position d'autorité parce qu'il organisait une espèce de stage à Québec. Là, vous avez un autre cas sur la Côte-Nord, Germain Gagnon, condamné à 4 ans de prison pour agression sexuelle sur des mineurs. Une peine donc de 48 mois d'emprisonnement, des événements qui remontent à 1988 et ça va jusqu'à 1997, des victimes de moins de 14 ans. Et il en appelle lui aussi de sa condamnation. C'est un cas. L'autre histoire, c'est dans la Voie de l'Est ce matin, un homme de 31 ans qui a fait des attouchements à sa cousine de 11 ans. Rajoutez-en, on ne peut pas identifier les gens, il faut protéger la victime dans ce dossier-là. Pendant qu'on est en plein débat sur l'importance d'un tribunal spécialisé, je ne reprendrai pas là, les argumentaires ce matin, mais tous les jours on en voit. Et ce qu'on constate, c'est que oui, il y a des condamnations, bien sûr, mais que c'est souvent très, très, très long dans le processus et aussi dans l'accompagnement des gens qui décident de porter plainte. Alors voilà pour ce dossier-là. Maintenant, parlons de la petite fille de Grimbé. On l'appelle comme ça pour, évidemment, peut-être mieux comprendre ce qui lui est arrivé, qui est épouvantable. Hier, rapport de pathologie dans son dossier. Et qu'est-ce qu'on est venu nous dire, dans le fond? C'est que l'enfant avait été... En fait, on lui avait bloqué la bouche et le nez et que donc, elle avait littéralement suffoqué. C'est horrible. Elle était plus maigre aussi que un enfant de son âge. Et on comprend, là, depuis le début, comment la preuve est présentée. C'était un enfant qui, tout le temps, avait faim, volait pour manger. Donc, aujourd'hui, on nous dit que c'est un enfant qui avait visiblement des problèmes de santé, physique, de poids. C'est un enfant qu'on a retrouvé enrubanné comme une momie. Et la pathologiste a dit « Je suis allé pas mal par exclusion parce que je ne savais pas trop quoi dire, dans le sens où t'élimines des choses. De quoi il est mort, cet enfant-là? » Puis t'arrives, comme conclusion, à ce qu'on appelle une suffocation externe. Et là, tu dis, mais comment ça peut arriver? Ben, quand tu bloques le nez puis tu bloques la bouche, tu te retrouves avec un cas comme celui-là puis un enfant qui meurt. Dossier COVID, vaccin et tout ça. Alors, dans un premier temps, Québec annonce une troisième dose pour les 70 ans et plus. Donc, pour les gens qui ne sont pas en résidence, là. Mais ça veut dire ça qu'il faut vous inscrire. Il y a un calendrier qui est prévu. Par exemple, à partir du 16 novembre, les gens de 80 ans et plus pourront commencer à prendre des rendez-vous sur Clic Santé. Après ça, c'est 75 ans pour le 18, 70 ans pour le 23. C'est une dose qui doit être donnée après au moins 6 mois pour maximiser l'efficacité du vaccin. On sait que après un certain temps, ça a été démontré dans d'autres pays, et surtout pour les gens plus âgés, le vaccin perd un peu d'efficacité. Puis on rappelle toujours le principe, le vaccin protège jamais à 100%. Le vaccin a comme caractéristique, évidemment, de vous protéger dans une bonne proportion, mais aussi de faire en sorte que si vous avez la COVID, bien, vous n'aurez pas les pires effets secondaires. Puis quand on regarde les tableaux en termes d'hospitalisation, on voit que les non-vaccinés sont plus que surreprésentés dans ces catégories. Alors, hier, le ministre Christian Dubé a dit « c'est pas obligatoire ». C'est recommandé par la santé publique, mais la troisième dose pour les 70 ans et plus, c'est pas obligatoire. Entre-temps, en France, puis je vais essayer de le clarifier ce matin, là, je vous le dis, parce qu'il y a beaucoup de gens qui me posent la question. En France, on va exiger que les aînés aient cette troisième dose, donc le rappel, pour maintenir leur passeport vaccinal ou leur passeport sanitaire. Donc, ça veut dire qu'ici, vous avez, par exemple, après deux doses, votre passeport, est-ce que si je prends pas la troisième, mon passeport sera encore valide? C'est ça la question. J'ai pas la réponse, je vous le dis franchement, là. J'ai compris hier que c'était pas obligatoire. On est en train de faire les vérifications. Mais ça semble, en tout cas, en France, c'est la décision qui a été prise. On verra, puis j'espère avoir la réponse d'ici la fin de l'émission, pour vous informer correctement là-dessus. Maintenant, les négos avec les docteurs, avec les infirmières, on comprend que ça a pris hier une autre tournure. Puis vous le savez, là, dans ces questions-là, il y a la notion de spin. Tout le monde y va, pousse pour faire avancer son dossier, puis c'est bien rare que quelqu'un va nous donner toutes les informations. Je vais prendre, et vous remarquez une chose aussi. C'est intéressant de voir la dynamique entre Christian Dubé et François Legault. Vous allez voir pourquoi. Je commence avec les infirmières. M. Dubé sort, puis il dit dans le fond, que si ça niaise avec les primes que le gouvernement offre par décret, c'est parce que les délégués syndicaux, il y en a à peu près 300, veulent avoir la prime. Puis c'est une prime pour des infirmières puis du personnel de santé sur le plancher, pas des délégués syndicaux. Alors lui, il nous dit, ça bloque parce que ils sont plus préoccupés d'obtenir les primes que de régler le dossier. Mais le principe du gouvernement, tu soignes pas le monde, t'as pas de prime. Réponse syndicale. C'est parce que c'est pas si clair que ça. Il y a plein d'exceptions potentielles dans le contrat. Puis j'ai des infirmières qui m'écrivent me dire ça. Le contrat est pas clair. Ça fait quoi, deux semaines que je vous dis ça? Puis on nous renvoie la balle. Fait que le gouvernement a dit, hey, c'est à faute des syndicats. Ça s'appelle prendre les syndicats de front. Puis là, je sais que mes collègues Drainville et Luc Lavoie, hier, se sont assez pincés sur la notion des délégués syndicaux. C'est-tu important? Comment ça se fait qu'on paye 300 personnes avec les fonds publics pour faire de la job syndicale? C'est au syndicat à payer. Je ne veux pas embarquer dans ce débat-là ce matin, mais ce que je veux vous dire, c'est que c'est, je ne sais pas si c'est un geste volontaire des syndicats de mal informer leurs membres ou s'il y a vraiment un problème de fond dans le fameux formulaire pour obtenir la prime. Puis est-ce que les délégués syndicaux méritent une prime de 15 000? J'espère que non, là. Puis c'est pas le montant, c'est le principe. Parce que le problème aussi avec les primes, dès que tu donnes une prime à quelqu'un, la personne qui l'a pas veut l'obtenir. Puis il y a bien des gens qui mériteraient probablement une prime avant des délégués syndicaux. Et hier, M. Legault est venu un peu comme le bon policier après que le méchant policier soit passé pour dire, écoutez, on va se parler, puis on va... Alors que dans le cas des médecins, c'est François Legault qui a sorti le bâton, puis la carotte était bien cachée, en disant aux médecins de famille, vous travaillez pas assez. Puis on a d'ailleurs les tableaux de ça, puis en plus, si vous prenez pas plus de patients, on va vous couper ça de 30%. Christian Dubé est arrivé en arrière, puis il avait dit, oh, attention, là... Moi, je ne vais plus commenter ça, puis on va y aller par la voie de la négociation, puis avec les bons chiffres, les bonnes données, on va être capable de trouver un terrain d'entente. Il y a le spin qui continue. Le Devoir ce matin, déborder plus de médecins de famille songe à jeter l'éponge. À réduire, pas en prendre plus, à réduire le nombre de patients. Puis aller travailler en établissement, se disant blessé, insulté, par les propos du gouvernement. On n'est pas des paresseux. Et régler le problème de la liste d'attente, ça se fait pas par décret puis par insulte. Et là, M. Legault, hier aussi, a mis un petit peu d'eau dans le vin. Puis là, c'est une dynamique de négo. Puis la Fédération des médecins omnipraticiens nous répète, on manque de médecins, on manque de médecins. Si vous saviez, depuis le temps que j'entends ça, et Gaétan Barrette a tous les défauts de la Terre, là, mais quand il dit que le docteur Godin répète les mêmes histoires depuis le début, c'est vrai. Et c'est toujours la même chose. C'est de la pratique. Puis on n'est jamais capable, là, pendant toutes ces années-là, de trouver des terrains d'entente. J'ai l'impression d'avoir d'un côté un syndicat, mais un vrai syndicat, puis de l'autre bord, une bureaucratie, une vraie bureaucratie. Puis quand, à Québec, on parle de changement de culture, puis qu'on veut, par exemple, permettre une gestion des horaires plus souple, terrain, où on veut embarquer le monde, vous avez tous les lobbies. Puis les lobbies, ce sont souvent des syndicats de professionnels ou des syndicats de travailleurs qui font que ça empêche de rouler. Des gens là, qui m'écrivent, là, je peux pas enquêter sur toutes ces affaires-là, mais j'essaie d'avoir, je suis préposé aux bénéficiaires, là, puis je veux un emploi temps plein. Pas capable d'en avoir un. C'est pas un cas, là. Plusieurs personnes. J'ai pas le fin fond de l'histoire, mais ce que je veux vous montrer par ça, pardon, c'est qu'on sent vraiment que, encore, malgré les discours, le spin, la bureaucratie. Je le sais pas, moi, si vous êtes infirmière, vous allez pas lever le nez sur une prime de 15 000. Puis là, vous allez dire, ouais, ben une fois l'impôt payé, puis bon. C'est correct, mais c'est quand même un montant, je pense, appréciable. Je comprends les inquiétudes sur la notion de congé, puis s'il faut que je la rembourse, puis je la perds. Il y a quelqu'un, ou peut-être même des deux bords, on a intérêt à que ce soit pas trop clair. En tout cas, ça donne cette impression-là ce matin. Puis même dans deux gazettes, on revient sur les médecins. Juste un mot sur le cycliste dont on parlait tantôt. Peut-être des gens qui viennent de joindre à nous, là. Ça se passe dans Villeray, puis c'est un camion ben qui tourne et qui écrase et qui traîne sur une distance le cycliste. C'est horrifiant, il n'y a pas d'autre mot. Puis je m'adresse aux gens qui sont sur la route ce matin, puis je vais le faire à chaque fois qu'il y a un accident comme ça. Parce que je veux pas me lancer dans le fameux débat véhicule, auto là ou camion, et cycliste. Tu sais, parce qu'on va tomber dans les banalités et les généralités. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que oui, il y a des cyclistes qui sont casse-cou, puis oui, il y a des automobilistes qui oublient qu'on vit dans une réalité différente à Montréal depuis des années. Il faut cohabiter. Mais il y a une réalité quand même. La personne la plus vulnérable, c'est celle qui est en vélo. Puis même si c'est quelqu'un de téméraire, puis j'en vois tous les jours, il en demeure pas moins quand un camion ben te ramasse, là, c'est toi qui perds la vie quand t'es en vélo. Puis, je l'observe à Montréal. Je vis à Montréal. Je le vois tous les jours. Puis, tu sais, les comportements agressifs des gens, l'impatience, puis t'es pris, puis les détours. Puis là, à un moment donné, tu veux tourner plus vite. Puis la pression exercée sur les livreurs, là, puis bon. Fait je veux pas encore leur faire tout un débat là-dessus ce matin, mais je pense que c'est important, là, c'est une émission matinale, il y a des gens qui sont dans leur véhicule, d'avoir cette prise de conscience-là quand on se déplace en ville. Peut-être aujourd'hui une attention spéciale, puis de laisser passer les piétons, puis de laisser passer les gens en vélo, même s'il y a des piétons qui vous enragent parce qu'ils traversent de billets, parce qu'il y a des cyclistes qui vous mettent le feu parce que vous clignotez pour tourner, puis ils vous écoutent pas, puis ils vous voient pas, puis bon. Un rappel, disons, à la prudence, encore une fois, dans vos déplacements. Maintenant, on va parler de l'UPAC. C'est assez bizarre, je dois dire, comme conférence de presse hier. L'UPAC est secouée par des crises internes, par des erreurs graves, par des procès qu'on met sur la glace, puis où on arrête les procédures. T'sais, on peut faire la liste, je l'ai fait souvent, là. C'est mâchuré, on ne sait pas ce qui arrive. Paraît que ça existe encore, paraît qu'il y a du monde qui travaille là-dessus. Mais pas de conclusion. Ça, c'est l'enquête sur le Parti libéral, Jean Charest, Marc Bibeau. des grenailles devant la justice. Il y a des plaintes, il y a des enquêtes. Et le commissaire, Frédéric Gaudreau, qui sera avec nous ce matin, dit qu'il veut refaire l'image de l'UPAC. Puis moi, je pense pas sérieusement que c'est un changement de nom là, qui est prioritaire. Tu sais, faire un nouveau branding, là, pour prendre une expression marketing. Personnellement, j'ai des doutes. Là, la presse nous dit qu'en plus, il veut embaucher, ça serait déjà commencé, des vétérans policiers à la retraite pour justement venir sur le terrain puis faire en sorte que l'UPAC donne des résultats. Parce que la vie, là, c'est que ce que je comprends, c'est qu'il y a un roulement à l'UPAC. Il y a le numéro 2 qui a été tassé parce qu'il y a une juge qui les ramasse à coups de bâton en disant « Vous avez fait une job, la Couronne et l'UPAC, dans le procès Terrebonne, là, du maire Robitaille, avec le seul souci de gagner. Puis vous avez bafoué la loi puis les droits. Fait que j'arrête les procédures. C'est quelque chose de grave, là. C'est pas un ticket, là. C'est le numéro 2 de l'UPAC. Alors, mais c'est quoi ce problème-là à l'UPAC? D'échapper tout, là. Puis là, je parle pas juste du commissaire actuel. Guy Ouellet, il l'arrête comme le dernier des bandits. Ça finit par un règlement où on fait un chèque à Guy Ouellet après avoir tout laissé tomber. Puis le commissaire est obligé d'aller s'excuser en public. Alors, disons que ça commence à être assez lourd. Rapidement, dans les autres nouvelles, dans la presse de ce matin, il paraît qu'il y a un vol de mots de passe à la Banque Laurentienne. Officiellement, j'en parle, vous allez me dire, c'est pas beaucoup, mais j'ai tendance à me méfier des chiffres qu'on nous donne. On parle de 24 clients de toucher. C'est à peu près certain qu'il y en a plus, là. Mais donc, ça s'est passé entre le 28 avril et le 2 août. Là, on apprend ça maintenant. Puis là, on nous dit que tous les clients ont été avisés et que c'est maintenant à régler. Et chose du passé. Après le dossier Michael Rousseau d'Air Canada, qui a décidé, de, finalement, il y a du temps dans l'horaire pour un petit cours de français, il y a un autre discours qui est prévu, c'est Ian Edwards, qui est le patron de SNC-Lavalin. Il parle pas français, lui, non plus. Si je résume son parcours, il a commencé, il y a quelques années, à suivre des cours, puis il paraît qu'il y a des difficultés d'apprentissage. Les cours donnent pas ce qui est souhaité comme capacité de parler français. Et là, il va faire un discours lundi prochain devant le Cercle canadien à Montréal, juste en anglais. Il n'est pas capable de lire trois lignes en français non plus. Puis là, on nous dit par contre qu'il a repris les cours privés, pour apprendre le français. Puis je sais qu'il y en a d'autres, là, des VP, puis tout ça, qui sont des unilingues anglais. C'est assez nombreux. Et puis en terminant, un mot sur la COP26, les Nations unies qui nous disent que ça prend des mesures plus musclées si on veut vraiment réduire les gaz à effet de serre. Puis dans le Globe and Mail ce matin, on revient sur le Canada qui fait partie des pays qui parlent beaucoup. Tu sais, des pays là, qui se font aller avec des grandes cibles, des objectifs, et qui livrent finalement très peu. Donc, on verra comment ça va se terminer, cette grande rencontre. Mais jusqu'à maintenant, là, beaucoup de blabla. Et une fois qu'on aura des cibles, des objectifs, quels seront les moyens, puis de quelle façon les pays vont réussir à s'entendre? Alors, à lire ce matin dans le Global Mail, entre autres.
L'essentiel de Paul Arcand.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
L'essentiel de Paul Arcand.
Hier, c'était la présentation du rapport du commissaire à la lutte contre la corruption, donc le rapport de l'UPAC. Frédéric Gaudreau est avec nous. Monsieur Gaudreau, bonjour.
Bonjour.
Ça va pas bien, on peut dire ça assez carrément ce matin quand je regarde le bilan. Là, et puis je vais essayer de passer le rapport avec vous, là, ce qu'on appelle les faits saillants rapidement. Est-ce que je comprends qu'il y a deux personnes qui ont été reconnues coupables dans la dernière année suite à des enquêtes de l'UPAC?
Oui, tout à fait. Deux condamnations.
Quel genre de condamnation?
Bien, c'est des condamnations dans des dossiers qui traitent donc d'abus de confiance, de fraude, notamment vers l'État. Donc, c'est des dossiers qui ont été enquêtés il y a plusieurs années déjà de ça et qui arrivent à une conclusion judiciaire, comme on appelle dans notre jargon. Et bref, c'est le fruit finalement du travail qui a été fait dans les dernières années.
Me semble, en regardant le détail, qu'on a affaire à des petits poissons, là. C'est des petits. Ça demeure de la corruption, là, mais c'est mineur, là. On est dans des petits joueurs. Êtes-vous d'accord avec ça?
Bien, c'est des gens, effectivement, qui ont moins d'impact, que je pourrais dire, au niveau médiatique, notamment, parce que ça attire moins l'attention. Par contre, c'est des gens à qui la population a remis sa confiance pour travailler avec l'argent du public.
Oui, oui. Mais c'est parce que l'image que l'UPAC dégage, c'est qu'il se passe rien. C'est qu'il n'y a pas d'enquête qui aboutisse, qu'il n'y a pas d'arrestation, qu'il n'y a pas de gros cas de corruption, à moins que vous me disiez qu'il n'y a plus de corruption au Québec, là, qu'il n'arrive rien avec l'UPAC.
Je peux comprendre cette perception-là. Je peux la comprendre. Dans les dernières années, effectivement, on a eu notre lot, comment dire, de... On peut qualifier ça d'échec et qui a nécessairement alimenté le cynisme de la population envers notre institution. Puis ça, je peux le comprendre. Maintenant, ce que je peux vous dire, moi, c'est qu'on en a des dossiers, on en a des dénonciations, on a plusieurs dossiers d'enquête actifs présentement. Puis il faut rappeler aussi, c'est quoi le travail des enquêteurs? Le travail des enquêteurs, c'est de faire la lumière sur une dénonciation qui leur a été acheminée. Ça ne veut pas dire qu'ultimement, ça va se décliné avec une mise en accusation ou une condamnation. Mais minimalement, il y a un travail de fond qui va avoir été fait pour retourner toutes les pierres et déterminer si oui ou non il y a eu la commission d'un crime. Puis ça, c'est un travail qui est fait au quotidien par les enquêteurs qui sont sur le terrain.
Mais je vous donne l'exemple de l'affaire de Terrebonne, du procès du maire et des gens qui étaient accusés avec lui. Moi, j'ai lu le jugement de la juge McKenna, là, mais qui est d'une sévérité à l'endroit des policiers de l'UPAC, qui étaient, d'ailleurs, les mesures ont été prises contre le numéro 2, là, votre adjoint, contre le DPCP en disant que c'était la recherche d'une victoire à tout prix puis qu'il y a un déni de droit. Comment ça se fait qu'on se rend jusque-là?
Je vais être très prudent dans ma réponse parce qu'évidemment, dès le lendemain là, du dépôt du jugement, le DPCP a affiché clairement son intention d'en étudier le fond pour éventuellement aller en appel. Donc moi, je dois faire très attention sur ce que je peux
dire.
Mais
là, vous avez tassé votre numéro 2, là, il est sur une tablette administrative.
Ouais, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris des mesures à l'interne, évidemment, la lecture du jugement, sans me rentrer dans le fond de l'affaire. J'ai quand même une préoccupation, là, parce que quand je dis ça, il y a des gens qui... En fait, il y a une dénonciation, si on veut, qui est au centre de tout ça. Et j'ai pris la décision, moi, de dire ben, les gens qui sont en situation de gestion par rapport à, comment dire, à l'assignation de ces dénonciations-là, je vais leur donner un rôle administratif, le temps de faire la lumière sur cette situation-là.
Mais c'est pas n'importe qui, c'est le numéro 2 de l'UPAC.
Je comprends tout à fait. Puis, vous savez, toute personne qui peut être appelée à témoigner devant les tribunaux, que ce soit un enquêteur qui fait du terrain ou un gestionnaire, bien évidemment, cette personne-là doit offrir un témoignage. Puis, encore une fois, je dois être extrêmement prudent sur ce que je peux vous dire là-dessus, mais c'est sûr que ça laisse quand même une image très particulière.
C'est parce que l'image qu'on a, là, puis je veux pas juste rappeler les mauvais coups, là, mais Guy Ouellet arrêté, Guy Ouellet relâché, Guy Ouellet poursuit, dédommagement à Guy Ouellet. Vous êtes allé lire des excuses, pas un communiqué, là. C'est une lecture. C'est pas vous qui étiez dans le dossier à ce moment-là. Comment vous vous êtes senti vous excuser publiquement en lisant un communiqué négocié par des avocats?
C'est pas facile. C'est pas facile. C'est
des situations. Admettre un échec lamentable, puis ça...
Ben, ce sont des situations qui... en fait, personne ne souhaite se retrouver là. Puis, évidemment, pour moi, c'est pas quelque chose du tout qui est agréable. Là. Je veux dire, à un moment donné, il faut dire des vraies choses. Là. Mais à un moment donné, il faut aussi tourner la page sur certaines histoires. Puis moi, je me suis engagé comme commissaire, sachant, en fait, qu'il y avait des défis dans cette organisation-là, puis sachant que je pouvais quand même contribuer à la rebâtir. J'y crois encore. Je crois encore
qu'on a besoin. Vous croyez que l'UPAC a encore un rôle à jouer, que l'UPAC peut être utile, qu'on peut pas reprendre les activités de l'UPAC et retourner ça à la Sûreté du Québec, par exemple?
Bien, à mon avis, là, on a besoin d'avoir des gens qui traitent la corruption à temps plein. On en a encore des dénonciations, on a encore des dossiers d'enquête en cours. Il faut qu'il y ait des gens qui s'occupent de ça en permanence. L'histoire au Québec a démontré qu'il y a 10 ans, quand il n'y avait pas d'unité permanente pour faire ce type d'enquête-là, ces dossiers-là étaient relégués au second plan. Et c'est normal, parce que quand il y a des fusillades dans la rue, quand il y a des enjeux de crimes organisés, les organisations policières traditionnelles se doivent de concentrer leurs efforts pour lutter contre ces problématiques-là. Mais pendant ce temps-là, on s'occupe pas des autres choses, comme notamment la corruption. C'est devenu une priorité, puis on en a encore des dénonciations.
Okay. Je veux pas aller dans les détails, là. Je comprends qu'il y a des enquêtes en cours. Il y a combien de dossiers ouverts de corruption à l'UPAC actuellement, là, qui font l'objet d'enquêtes?
200.
200. Sans aller dans les détails, on parle de quel genre de corruption?
On en a à tous les niveaux. Je vous dirais que des histoires de qu'on peut considérer des histoires de petits villages où il y a des fonctionnaires qui gèrent des petites caisses là, jusqu'à des dossiers d'envergure où il y a des stratagèmes qui sont beaucoup plus cachés que ceux qu'on a connus dans le passé. Puis c'est là que le défi y est. Donc, dans toutes les strates, je vous dirais, du fonctionnariat au Québec, mais aussi des strates de titulaires de charge publique, que ce soit des élus ou des fonctionnaires. Donc, il y en
mais,
a...
Mais juste bien comprendre de ce que vous me dites là. On vient d'élire là, à travers le Québec des nouveaux conseils de ville, puis tout ça, puis beaucoup de relèves, puis de jeunes. Est-ce que la corruption au niveau municipal existe encore, même dans des villes comme Montréal, dans des villes comme Laval et Longueuil?
Elle existe encore. Elle existe encore. Et ce qui m'a
donc, ces élus-là sont à risque de se faire, pas acheter, mais de voir des renards tourner autour d'eux.
Tout à fait. Ça existe encore. Puis c'est ce qui m'a réjoui, moi, dans les élections municipales, c'est justement cet éveil-là qui a été quand même reconnu pendant les élections. Plusieurs municipalités qui ont mis de l'avant l'importance de la transparence, l'importance des mesures à prendre pour éviter de se retrouver dans un stratagème comme ça. Puis nous, on va leur offrir, d'ailleurs, dans les prochaines semaines, on va leur laisser le temps d'atterrir puis de s'occuper de leur dossier. Mais on va leur offrir des séances de formation pour leur indiquer c'est quoi les risques en matière de corruption.
Mais je veux bien comprendre, là, parce que c'est un sujet qui m'intéresse, moi, la corruption au Québec, puis j'ai toujours trouvé qu'on négligeait cette question-là. Vous me dites encore aujourd'hui, dans les 200 cas, même si les méthodes ont changé, si les joueurs sont peut-être pas les mêmes, là, il y a encore des stratagèmes de corruption, peut-être au petit niveau du village, mais aussi visant des plus grosses villes, des plus grosses entreprises?
Oui, tout à fait. Tout à fait.
Allez-vous être capable de les pogner, ceux-là?
Bien, c'est ce qu'on souhaite, là. Nous, c'est on reçoit des dénonciations, on travaille en fonction du matériel, des informations qui nous sont communiquées. Puis ce sur quoi moi je me suis engagé, d'ailleurs ça c'est un élément dans notre bilan, c'est de ne plus perdre de temps pour rencontrer ces gens-là. On est passé de près de 150 dossiers en attente de traitement pendant des mois. Maintenant, on est capable de traiter nos dossiers en dedans de 7 à 10 jours. On rencontre la personne, puis tout de suite, on va de l'avant avec des mesures. Puis de cette façon-là, on est plus contemporain, puis on est en mesure d'avoir plus de matériel, puis éventuellement rencontrer des témoins qui sont vraiment, comment dire, plus attaché au dossier. Et ça, pour moi, c'est super important parce que justement, on est capable de faire plus rapidement la lumière sur une histoire, quitte à fermer plus rapidement le dossier ou éventuellement le présenter plus rapidement au procureur.
Est-ce que je comprends que vous avez fait l'embauche de 18 nouveaux enquêteurs, des policiers d'expérience, là, on le voit, là, des gens qui sont retraités dans beaucoup de cas, là. Ça, c'est vrai, là, c'est 18 de plus.
Oui, tout à fait. Commence à la fin novembre.
Puis pourquoi vous êtes allé chercher des hauts gradés retraités pour faire la job?
Ce qu'on a fait, d'abord avant tout, il faut savoir qu'il y a une histoire derrière ça. Ça fait longtemps qu'on milite pour être en mesure d'avoir nos propres enquêteurs policiers. Mm-hmm. La loi est adoptée en décembre 2020. On a eu notre règlement au mois d'août. Puis en septembre, on a pu procéder à l'affichage. On est allé en disant, ceux qui sont intéressés d'enquêter la lutte contre la corruption, manifestez-vous. On avait ouvert le concours pour 2 semaines. En une semaine, on a eu assez de candidatures pour faire des entrevues. On en a retenu 18. On est allé chercher des gens qui ont un profil d'enquête à la base, parce que puis qui étaient, comment dire, qui correspondaient aux critères de la loi sur la police. Dans une première étape, je suis extrêmement satisfait de la qualité des candidatures qu'on a reçues. On est vraiment d'ailleurs étonné que ça ait répondu aussi rapidement. Et donc, on va accueillir ces gens-là parmi nous au fin novembre. Et dans une deuxième étape, je vous dirais au printemps ou à l'été prochain, on va être en mesure, avec notre règlement, d'aller chercher des gens qui ne sont pas issus du milieu traditionnel policier. Puis ça, c'est une première au Québec. On est la première organisation policière qui va pouvoir engager des gens qui ne sont pas issus de la filière traditionnelle. Alors, le but, c'est qu'on travaille avec l'École nationale de police présentement.
Ça veut dire quoi? Des comptables? Ça veut dire des avocats? Je sais pas, là, mais des spécialistes de la corruption puis de la fraude.
Tout à fait. Puis ça peut même être des journalistes. Je vous le dis, là. On va être ouvert à tous les profils qui sont intéressés par la lutte contre la corruption. Puis ça va amener une espèce de, comment dire, une force encore plus intéressante.
Trois questions en terminant. Le dossier Machuré, je le sais, il est en cours. À chaque fois que je vous vois, vous me dites toujours, c'est en cours. Es-tu en train d'épaissir? Est-ce que le couvercle s'ouvre un petit peu? Il reste fermé? Allez-vous être obligé de le fermer, ce dossier-là?
Je vais être prudent parce que parmi vos auditeurs, il y a des gens qui sont très, très intéressés à connaître la suite du dossier. Puis moi, comme citoyen, là aussi, même mon entourage sont intéressés. Moi, je vous le dis, là, on
parce que vous en avez
nécessaire.
Fermé des dossiers dans le passé quand vous êtes arrivé.
Oui, puis je me gênerai pas pour en fermer d'autres. Je vous le dis.
Puis ça se peut que vous le fermiez à un moment donné.
Ça, c'est une possibilité. C'est une possibilité. Il faut pas l'écarter, comme dans d'autres dossiers. Mais en même temps, moi, je vais m'assurer de prendre la décision la plus claire, la plus éclairée possible, avec tous les détails qui sont à ma disposition.
Deuxième question. Voulez-vous vraiment changer le nom de l'UPAC?
Je pense que, puis là, ça, je vais l'admettre, là. Conférence de presse.
T'as pas une bonne idée.
Bon. Ce que je dois dire, là, c'est pas nécessairement le nom, mais la mission. Moi, je suis un gars de mission. L'objectif qu'on m'a donné, c'est, y a-tu quelque chose à faire avec ça? On peut-tu être plus performant? Y a-tu d'autres créneaux qui pourraient être intéressants pour que l'UPAC puisse travailler là-dedans? C'est là-dessus que je travaille présentement. Puis d'ailleurs, c'est ce qu'on a déposé publiquement dans notre rapport au comité consultatif sur la réalité policière.
Fait que la marque change pas, là. Le nom, il n'y aura pas de branding.
Non, le branding, okay. Je dois l'admettre, celle-là, on est allé un peu loin. Mais, l'idée, c'est la mission. Sur quoi on peut travailler pour être plus efficace?
OK. Dernière question. Êtes-vous candidat à la direction de la Sûreté du Québec?
Non, j'ai pas postulé.
Parfait. M. Godreau, merci beaucoup d'être venu ce matin. Bonne journée.
Merci, M. Arcan.
Frédéric Godreau est commissaire à la lutte contre la corruption.
L'essentiel de Paul Arcan.
Alors, on va donc donner une troisième dose aux Québécois selon un calendrier, puis selon les groupes d'âge. Hier, Québec a dit à partir du 16 novembre, les gens de 80 ans et plus pourront commencer à prendre leur rendez-vous sur Clic Santé. Par la suite, le 18, 75 ans, le 23, 70 ans. Alors évidemment, tout ça pour renforcer leur système immunitaire. Le Dr Weiss avait souligné l'importance de la troisième dose. Il est avec nous ce matin. Bonjour, Dr Weiss.
Oui, bonjour, M. Arcan.
Alors cette troisième dose, évidemment, vous l'aviez dit la semaine dernière, c'est important. Peut-être rappeler, on l'a dit, mais les rappels sont importants, là, pourquoi cette dose-là, il faut l'avoir?
Alors, cette dose-là, il faut l'avoir parce qu'on sait qu'après 6 mois après la deuxième dose, l'immunité tend à diminuer, surtout chez les personnes plus âgées ou les gens qui ont des problèmes au niveau de leur immunité. Donc, des gens, par exemple, qui ont des cancers ou qui prennent des médicaments pour des maladies comme l'arthrite rhumatoïde ou la maladie de Crohn ou le psoriasis, donc certains immunosuppresseurs. Donc, votre système immunitaire diminue. Et très souvent dans les virus, hein, quand on pense au virus de l'hépatite B, quand on pense au virus du HPV, souvent on a 3 doses à administrer. La troisième est en quelque sorte, si vous voulez, la cerise sur le gâteau, celle qui va permettre de booster de façon importante le système immunitaire. Donc c'est un peu ça l'idée de la troisième dose. Puis il y a beaucoup de données qui proviennent de plusieurs pays et qui démontrent que finalement, après 6 mois, l'immunité chez certains groupes et surtout les personnes plus âgées tend à diminuer avec un risque de réinfection. Il y a quand même une certaine protection qui demeure, donc faut quand même le souligner, et surtout une protection qui est quand même très bonne envers la maladie sévère, même si les gens ont eu leurs 2 doses et pas leur 3e. Mais il faut s'assurer de donner cette 3e dose pour avoir une protection à très long terme.
Est-ce que, quand vous parlez d'études là ou de données, est-ce que on a vu l'effet dans les pays où on a commencé il y a un certain temps à administrer la 3e dose?
Oui, alors l'effet, c'est surtout Israël. C'est là où ça a été fait, je vous dirais, de façon le plus marquée. Donc, c'est là où l'endroit a été fait. Parce que en Israël, ils ont administré leur vaccin très rapidement. Donc, ils se sont retrouvés 6 mois après les autres doses avec, je vous dirais, une résurgence de cas, surtout dans certains secteurs de la population. Et puis, il y avait aussi le mélange, je vous dirais, de surtout la population plus âgée qui était moins protégée à ce moment-là. Il faut aussi souligner qu'ils ont administré dans plusieurs pays les doses assez rapprochées. Et on sait aujourd'hui que probablement l'idéal, c'est d'administrer la 2e dose entre 6 à 8 semaines après la 1e dose. Et donc, dans ce contexte-là, je vous dirais, comme on l'a administré plus tard au Canada, on a peut-être un peu plus de protection, mais là encore, c'est à voir. Par contre, c'est clair qu'il faut administrer la 3e dose à tout le monde et surtout aux personnes plus âgées, les gens à risque, et aussi les travailleurs de la santé, parce que les travailleurs de la santé constituent un risque important de transmission, mais aussi on veut pas les perdre, parce que vous savez qu'il y a déjà des problèmes de personnel, et donc si on commence à avoir des gens, même s'ils sont pas très malades, mais imaginez par exemple que de jeunes infirmières ou des gens en santé tests positifs et on est obligé de les retirer du milieu de travail, à ce moment-là, ben, ça créerait d'autres problèmes en termes de conditions, etc.
Pour les gens qui ont reçu le vaccin AstraZeneca, ce que je comprends, là, c'est qu'ils vont, la troisième injection sera Pfizer ou Moderna.
Tout à fait, parce qu'on sait que le vaccin d'AstraZeneca est moins bon que les autres. On l'avait dit, il y avait déjà beaucoup de données qui montraient qu'il y avait une efficacité moins grande. Et dans ce contexte-là, ben, les gens qui ont eu deux doses, on s'entend, du vaccin d'AstraZeneca, ces gens-là devront recevoir une dose qui va être une dose, si vous voulez, de rappel, avec un vaccin à ARN messager. On sait aujourd'hui que les vaccins à ARN messager sont, entre guillemets, meilleurs que les autres. On le savait déjà depuis un bout de temps. À l'époque, ben, écoutez, on était, entre guillemets, mal pris, donc on faisait flèche de tout bois. Mais il est clair qu'aujourd'hui, avec l'arrivée des vaccins à ARN messager, sûr qu'ils sont très disponibles, en tout cas certainement beaucoup plus qu'au moment où on l'a fait, ces gens-là, pour augmenter leur efficacité à long terme. Et aussi, ce qui est important, c'est avec l'arrivée des nouveaux variants, entre autres le Delta, on s'est aperçu que les vaccins d'AstraZeneca étaient moins protecteurs contre ce variant en particulier, qui aujourd'hui est quasiment 100% de nos souches au Québec.
Bon, là, on parle des gens de 70 ans et plus. Est-ce que la troisième dose, et je pose la question que beaucoup d'auditeurs m'ont formulée, là, est-ce que ça va être aussi essentiel, nécessaire pour des gens de, je sais pas, 50 ans, 40 ans, 35 ans, 20 ans?
Oui. Alors là, je vous dirais, ce sur quoi tout le monde s'entend, puis je pense que là, on peut jouer sur les chiffres, etc. Mais définitivement qu'en haut de 65 ans, probablement que tout le monde va avoir sa troisième dose. Définitivement que toutes les personnes qui ont des problèmes d'immunité sous-jacente, qui prennent des médicaments immunosuppresseurs, les gens auront besoin d'avoir leur troisième dose. Fort probablement que les 50 à 64 ans, on va dire, devraient également avoir une troisième dose, même s'ils sont en pleine forme. Et les travailleurs de la santé, d'ailleurs, c'est ce qui est recommandé par la plupart des juridictions. Vous savez, l'Ontario a décidé, avec raison, comme d'autres provinces canadiennes, de vacciner les travailleurs de la santé avec une troisième dose quand ça faisait plus que 6 mois. Les États-Unis le font, l'Europe le fait. Donc, il n'y a pas de raison qu'au Québec, on ne fasse pas ça. Ça, c'est une urgence qui doit être mise en place rapidement. Sinon, on risque de se retrouver avec des problèmes de personnel, et il faut déjà que c'est pas facile, ça devrait être plus compliqué. Pour la population générale, je vous dirais, donc vous avez 30 ans, 40 ans et vous êtes en pleine forme, vous avez eu deux doses, je vous dirais, il n'y a pas d'urgence en la matière, dans le sens que ces gens-là, c'est sûr que les gens sont suivis, il y a des études qui sont faites actuellement, et donc on va voir si la protection de ces groupes d'âge-là va continuer sur une plus longue période. Donc pour l'instant, il n'y a pas d'urgence, je vous dirais, à aller vers ces groupes-là. Ce qui est quand même intéressant, c'est qu'il y a déjà pas mal de pays qui ont plutôt choisi de donner leur troisième dose aux groupes à risque, aux populations plus âgées, aux travailleurs de la santé, aux travailleurs essentiels, plutôt que de commencer à vacciner de façon prioritaire les enfants de 5 à 11 ans, même si on sait que les 5 à 11 ans sont peut-être des causes d'éclosion dans certains cas. Mais en termes de qu'est-ce qu'on veut, ben, on veut protéger le système de santé. C'est-à-dire, vous voulez pas qu'après la période des fêtes, vous ayez des gens de plus de 50 ans, plus de 40 ans, avec des maladies sous-jacentes ou des gens plus âgés qui subitement se retrouvent moins protégés, arrivent à l'hôpital, qu'on est obligé d'hospitaliser, qui vont engorger le système. On sait que les enfants ne feront pas ça. Les enfants, on les vaccine surtout pour protéger l'ensemble de la population. Donc là, il y a des choix à faire. Ce qui est aussi important de regarder, c'est que vous avez peut-être vu qu'il y avait peut-être pour 2022 des problèmes d'approvisionnement, par exemple pour les aiguilles, pour les seringues. Donc, il va falloir aussi s'assurer qu'on ait des réserves logistiques adéquates au Québec. Au cas où on aurait besoin d'augmenter de façon importante la campagne de vaccination à un moment donné et qu'on ne soit pas pris à compétitionner avec le reste de la planète, parce que c'est ce qui risque d'arriver. Donc, à un moment donné, il risque d'avoir des manques de seringues, des manques d'aiguilles et aussi des manques de vaccins. Donc, il faudrait s'assurer qu'on ait les réserves pour pouvoir vacciner rapidement au niveau canadien la population si la demande commence à se faire importante dans d'autres pays sur la planète.
Dernière question. On est en campagne de vaccination contre le virus de la grippe. Il n'y a pas de contre-indication entre une troisième dose et le vaccin contre la grippe?
Non, pas vraiment. Alors, à date, il faut dire que la grippe au Québec, il y en a quasiment pas. Il y en a zéro cas. La semaine dernière, il y en avait zéro. Alors, pour vous donner un exemple, on a eu 3200 cas à peu près de COVID la semaine dernière au Québec. Et 3200, si je mettais ça pour la grippe, ce serait quasiment la période la plus intense par hebdomadaire d'activité grippale au Québec. Donc, on n'a pas de grippe au Québec, mais il n'y a pas de contre-indication à recevoir les deux vaccins. En tout cas, il ne semble pas avoir de données qui montrent que si vous recevez les deux en même temps, ça diminuerait l'efficacité de l'un ou de l'autre. C'est sûr que s'il y avait un vaccin à prioriser de façon plus rapide, ce serait de recevoir sa troisième dose contre la COVID actuellement, parce que de la COVID, il y en a, et de l'influenza, il n'y en a pas. Alors, c'est donc pour les groupes, les personnes, par exemple, plus âgées ou les personnes qui seraient à risque, la priorité, ce serait de recevoir leur vaccin contre la COVID.
Merci encore une fois, Dr. Weiss. Bonne journée.
Vous aussi.
Au revoir. Dr. Carl Weiss, qui est, vous le savez, microbiologiste, et il est à l'hôpital général juif de Montréal.
L'essentiel de Paul Arcand.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
L'essentiel de Paul Arcand.
La nouvelle est tombée hier en fin de journée. Ça a été un choc pour bien des gens. Carey Price, sur les réseaux sociaux, qui a partagé ce qu'il vit depuis des années. Et je vais le citer. Au cours des dernières années, je me suis laissé sombrer dans un état de noirceur dont il m'est devenu impossible de sortir sans aide. Le mois dernier, j'ai pris la décision d'intégrer un centre de traitement pour usage de substances. Les choses avaient atteint un point où j'ai réalisé que je devais prioriser ma santé, tant pour moi-même que pour ma famille. Autrement dit, ce que Carey Price dit sur la place publique, c'est que depuis des années, j'ai des problèmes de consommation, puis tout ça m'amène dans un tourbillon avec, par voie de conséquence, des problèmes de santé mentale. Stéphane Waite est avec nous, il a été son entraîneur, il collabore au 98.5. Stéphane Waite, bonjour.
Bon matin.
Avez-vous été surpris de cette annonce-là hier en fin de journée?
Très surpris, honnêtement, très, très surpris. C'est quelque chose que j'ai pas vu venir. On s'était texté il y a un mois à peu près quand Carey a décidé de demander de l'aide. Et puis, ça a des textes qui étaient assez courts, mais tout ce qu'il disait en fin de compte, c'est que bon, mais mentalement, c'était pas facile. Et puis, il avait demandé de l'aide. Donc, pour moi, c'était clair que c'était seulement au niveau de la santé mentale. Parce qu'en 8 ans avec lui, je ne me suis jamais rendu compte de quelque chose, soit alcool, drogue ou médicaments. Je ne me suis jamais rendu compte et j'étais certain que ce n'était pas un problème.
Ben, c'est un peu la question que j'allais vous poser, dans la mesure où vous le voyez à l'époque comme entraîneur, vous faites des séances avec lui, vous avez un contact privilégié avec lui. Il n'y a pas des matins où il arrivait pour l'entraînement, je sais pas moi, comme on dit, hangover, ou qui était un peu moins sur la coche que d'habitude?
Non, c'est exactement ça qui me surprend tellement. Chaque matin, il arrivait, puis très focusé sur le job, très focusé dans son effort, que ce soit tant hors glace que sur glace. C'est un gars qui prenait soin de lui, qui prenait soin de ce qu'il mangeait. C'est pour ça que pour moi, là, c'est une surprise totale. Et puis, tellement que même ses coéquipiers les plus proches de lui n'ont jamais rien vu. Donc, c'est très, très surprenant.
Et tout ça, là, cette dépendance donc reconnue, s'ajoute des problèmes, vous l'avez un peu souligné tantôt, de dépression, en tout cas des idées noires, puis... Croyez-vous aussi le fait qu'il ait été blessé souvent quand même, puis qu'il y a eu des interventions, qu'il a pu peut-être développer une dépendance à certains médicaments comme des antidouleurs, ou on jase là?
Peut-être, honnêtement, on spécule, mais encore là, c'est quelque chose que pour moi que j'ai jamais vu venir. Et puis c'est assez spécial. C'est sûr que je le fréquentais seulement à l'aréna, moi. Du matin jusqu'au milieu de l'après-midi ou le soir quand on jouait. Mais ce qui est le plus surprenant, c'est que ses coéquipiers les plus proches qui le fréquentaient, lui et sa famille, là, les soirs où il allait souper chez des coéquipiers ou qui sortaient souper ensemble sur la route, même eux n'ont jamais vu venir cette chose. Donc, c'est là que tu vois que souvent, il y a beaucoup de personnes qui souffrent en privé, puis qui gardent ça pour eux, puis personne ne le sait dans leurs entourages. Ce qui est très surprenant, puis qui est très... c'est un petit peu un choc.
Je comprends, c'est révélateur aussi. Là, on parle de Carey Price, parce que bon, c'est une vedette, c'est une star, mais il y a beaucoup de gens qui nous écoutent ce matin qui vivent ça, puis l'entourage ne le sait pas, puis l'entourage le constate pas. Avez-vous l'impression que toute cette démarche-là, le fait de s'inscrire au programme, de le dire publiquement, de prendre ce recul par rapport à sa carrière, tout ça va l'aider à poursuivre sa carrière ou ça va l'amener peut-être à dire je vais aller faire autre chose?
Je pense qu'au contraire, ça va l'aider à poursuivre sa carrière, puis peut-être plus même apprécier sa carrière. C'est un gars souvent qui arrivait le matin d'humeur changeante. Et puis j'avais souvent à lui dire, écoute, Carey, have fun. La vie est belle, tu joues au hockey, t'es bien payé pour, t'as une belle famille. Puis c'est là que des fois, il disait, ouais, c'est vrai, t'as raison, Steph. Puis là, il commençait à sourire. Mais peut-être que tout ça va faire que ça, il va le réaliser pour de bon, puis qu'il va enfin apprécier tout ce qu'il y a alentour de lui, parce que c'est un gars qui est privilégié. Puis tout ça fait que, écoute, ça va aider pas seulement à Carey, ça va aider tout le monde, je pense, tout le monde qui ont des problèmes. Fait que, tout ça pour dire que le fait qu'il ait demandé de l'aide, puis après ça, un mois plus tard, qu'il dise publiquement c'est quoi son problème, fait que, wow, j'ai encore beaucoup plus de respect pour l'homme, si je pouvais en avoir encore plus.
Stéphane Drouet, merci beaucoup. Bonne journée.
Merci beaucoup.
Stéphane Drouet est l'ancien entraîneur des gardiens du Canadien. Il était là jusqu'en mars dernier et donc a travaillé avec Carey Price.
L'essentiel de Paul Arcand.
Bon, Réseau de la santé, le ministre Christian Dubé est sorti hier en accusant les syndicats d'empêcher de faire avancer les choses, notamment que les délégués syndicaux voulaient avoir des primes et également que les syndicats avaient bloqué toute tentative de règlement sur la clause de l'ancienneté. L'idée, c'était de reconnaître l'ancienneté aux gens qui travaillaient dans les agences privées, aux infirmières et autres, là, ou encore qui avaient quitté pour la retraite. Claire Montour est la présidente de la Fédération de la santé du Québec, s'est affiliée à la CSQ et représente 5000 infirmiers, infirmières auxiliaires et inhalothérapeutes. Madame Montour, bonjour.
Bonjour.
Première question, est-ce que c'est vrai que les délégués syndicaux veulent obtenir la même prime que les autres?
Je vais reprendre ça un peu du début, là, parce que faut comprendre tout le système.
Ben, juste avant, on va vous laisser reprendre ça, mais c'est-tu oui ou c'est non?
Ben, ça fait partie des règles de la Convention, mais je vais expliquer pour qui. Parce que j'entends plusieurs choses depuis hier. Puis je pense qu'il y a des précisions qu'il faut qu'ils soient apportées. Dans la Convention collective, bon, je recommence, 071, l'arrêté ministériel, il y avait des mesures. On est sortis, nous, sur les ondes pour dire on comprend le geste du ministre, mais les modalités causent problème. On a dit, on est prêt à en discuter. La semaine dernière, on est sortis et là, on est en intersyndical. 5 organisations syndicales qui représentent l'ensemble. Je l'ai précisé, c'est mes collègues, SCFP et le SQUES de la FTQ, la F3S-CSM, FIC et nous, FSQ. On s'est assis la semaine dernière avec l'équipe du ministre pour discuter des modalités. Exemple, on a dit, il y a dans la convention collective des congés rémunérés. Une femme enceinte a le droit d'aller passer des visites chez son médecin. Ça n'en fait
pas. OK. Madame Montour, là, je suis plus patient qu'à l'habitude. Je vous ai laissé aller, mais je comprends pas où vous en allez avec ça. Moi, je vous pose des questions bien simples. Est-ce que la prime a été demandée pour les délégués syndicaux? C'est oui ou c'est non?
ça fait partie des congés rémunérés. Une personne qui travaille sur son département à temps complet a une journée de libération la semaine, parce que vous savez qu'on a négocié une convention collective qui a des comités pour régler les problèmes. Elle est libérée une journée faire son local, elle perd tout. C'est ça l'enjeu.
OK.
Et fait partie du reste.
Okay.
On a 15 propositions.
Le ministre, je comprends, mais le ministre a dit hier, je paierai pas une prime à des gens qui sont pas auprès des patients, qui sont pas des gens qui travaillent sur le plancher. C'est ce qu'il a dit. Vos délégués syndicaux sont pas libérés à temps plein?
Non, il y en a qui sont pas libérés à temps plein. C'est la très grande majorité qui sont pas libérés à temps plein.
Il y en a combien de libérés à temps plein?
Ben, écoutez, dans mon syndicat, là, je vais aller regarder ma fédération, là, les autres collègues pourront répondre. Mais écoutez, nous, là.
Mais ça se peut-tu qu'il y en ait 300, mettons, là, au total, là?
On est quatre. Okay. On est quatre.
Mais si je mets tous vos collègues dans les autres syndicats, ça se peut-tu qu'il y en ait 300?
Le libéré à temps complet?
Oui.
Sur 125 000, peut-être.
OK. Puis là, les 300 à temps complet, voulez-vous qu'ils reçoivent une prime?
Bien, on n'a pas discuté avec le... S'ils sont sans solde, on peut bien en discuter avec le ministère.
Okay.
Nous, on a demandé des congés rémunérés.
OK. Je vais vous donner un point. OK. J'ai vu la proposition de contrat qu'on demande de signer.
Oui.
Puis je suis d'accord avec vous, il y a des affaires qui sont pas claires. Ça, je comprends ça. Mais l'autre point, là, y a-t-il un spin aussi auprès des infirmières, campagne de peur, signez pas ça, vous allez vous faire pénaliser pour ça, puis bon... Autrement dit, de décourager les gens qui sont à l'extérieur de revenir dans le réseau, entre autres.
Moi, là,
oui,
je vais vous le dire, moi, là, j'ai beaucoup plus de respect que ça pour mes membres. J'en ai rencontré des membres, j'ai fait des assemblées. Et j'ai eu exactement cette question-là. Qu'est-ce que le syndicat nous dit? Je leur ai dit, vous avez vu le contrat, vous l'avez tout lu et vous avez une décision à prendre en connaissance de cause. Si vous me demandez si je prends un congé pour décès pour mon conjoint, est-ce que je risque de perdre? C'est pas précisé dans le contrat.
OK.
Il y a un vide.
Fait que lui, le message... Oui, mais Mme Montour, le message que vous envoyez ce matin à la machine bureaucratique, là, c'est clarifier le contrat, mettez ça clair, puis on va le signer. C'est ça?
Clarifier le contrat, puis il faut pas que les membres perdent de droit.
OK. Là, je vous amène sur l'ancienneté. Mettons que j'ai été 20 ans dans le réseau de la santé, 20 ans d'ancienneté, puis les conditions m'ont tellement écœuré que je suis parti. Fait 5 ans que je suis parti. Voulez-vous reconnaître mon ancienneté ou pas?
Bien, c'est parce que là, on prend la question à la une seule question.
Ben.
Nous, ce qu'on a dit, c'est on va parler des enjeux du personnel qui a resté dans le réseau et on va regarder vos questions aussi, mais c'est pas vrai qu'on va répondre à votre question, puis après ça, on va passer tout ouvert pour nos membres. Ça, ça marche.
Mais non, mais c'est parce que je veux juste savoir, moi, je suis une infirmière là, qui est dans le réseau, j'ai été dans le réseau public, j'ai quitté pour le privé.
Oui.
J'ai 20 ans d'ancienneté, je suis parti à la retraite. Si je reviens, je retombe-tu à 0-1 an? C'est ça que je veux savoir.
La personne qui a quitté à la retraite?
Puis qui reviendrait, est-ce qu'elle recommence à 0-1 an?
C'est prévu dans nos conventions collectives.
Qu'est-ce qui est prévu dans vos conventions collectives?
Elle revient, puis elle n'a pas d'ancienneté, elle n'a rien.
OK. Puis
on a négocié ça avec le gouvernement, il a signé la convention.
OK. Dans le contexte actuel, êtes-vous prêt à revoir cette clause-là pour les retraités qui pourraient aider vos membres à ne pas faire de temps supplémentaire obligatoire, mettons?
Je vais le regarder quand on va regarder l'ensemble des conditions pour nos membres.
OK.
Je ne regarderai pas le sujet. Le seul et unique sujet que le ministre veut régler, puis moi, j'ai 5000 membres en arrière qui me disent, il y a ça, si j'ai un congé pour décès, si je vais aller aux études parce qu'on me dit qu'on va être des bachelières, tout ça, là, ben, si on n'en discute pas, je discuterai pas du seul sujet du ministre.
Mais ça fait combien de semaines qu'on est supposé en discuter? Moi, là, ça fait 2-3 semaines, là, que c'est... Ça jase pas fort?
Ben, c'est parce qu'on l'a demandé, puis on a eu la réponse la semaine dernière, puis on a tout dégagé nos agendas. Les 5 organisations syndicales, là, on a travaillé du matin jusqu'au soir la semaine dernière là-dessus.
Okay,
on a été convoqués la semaine dernière, fait que là, je peux bien, mais 3 mois avant, je peux pas.
OK, Mme Monteau, je vais vous poser une question, vous n'êtes pas obligé de répondre, je ne vais pas vous mettre dans le trouble.
Ah!
Ah! Vous n'êtes pas sûr, mais Est-ce que ça se peut que la machine raconte pas tout au ministre? Que les fonds-fonds avec qui vous négociez, là, qui sont à la table, racontent pas nécessairement tout au ministre ou à son cabinet ou donnent pas tout à fait l'heure juste?
Non, je suis pas prête à dire ça.
Non, pensez pas, OK.
Ben, je ne sais pas c'est à quoi leur objectif, mais écoutez, la semaine
dernière... Leur objectif, c'est de rentrer du monde pour qu'il n'y ait plus de temps supplémentaire obligatoire puis pouvoir aller...
Le premier picot, c'est ça. Le premier picot qu'on a fait dans notre rencontre, là, c'est qu'on a dit aux représentants du ministère, nous avons le même objectif. On veut travailler à cet objectif. Ça, c'était la semaine passée.
Là, je suis obligé de vous laisser parce que je continue, mais là, je vais vous dire quelque chose, là, prenez pas ça mal, là. Mais il y a des gens qui vont vous entendre ce matin qui vont dire « ça, c'est le vieux discours syndical qui accroche dans le détail, qui est attaché au passé, qui n'est pas capable de penser en dehors de la boîte. » Là, okay. Madame Montour, là, ça, c'est le « old style » dans le bon vieux temps des conflits.
Ben, il y a une règle au Québec qui existe des syndicats, puis on va les respecter. Ça, c'est 2021. Des conventions collectives qu'on a négociées avec le gouvernement. On est des agents négociateurs, c'est reconnu dans les lois au Québec, là, les lois du travail. Ça fait 2021, là, on va parler de respect. Bon, deuxième chose, on a signé une convention. Hein, on était de bonne foi les deux parties pour écrire des affaires, puis on a signé. Bon, ben on va y respecter. Ça n'a pas d'affaire avec les vieux syndicats, ça, là.
Moi, je pose des questions.
2021. Ben, moi, je vous dis ça. C'est comme ça que je réagis à ça.
Madame Montour, bonne journée. J'espère que vous allez négocier. J'espère que vous allez trouver une entente.
Ben, nous, on est prêts. On a mis des solutions. On va en discuter. On veut régler et on veut que les 4 000 viennent dans le réseau où on supporte celles qui sont au travail.
Parfait.
Mais il faut le faire correctement. On est là.
OK. Merci beaucoup, Madame Montour.
Merci.
Au revoir. Claire Montour est la présidente de la Fédération de la santé du Québec affiliée à la CSQ. Juste deux choses que je veux ajouter. Là, on parle des délégués syndicaux. Les cadres ont-tu droit à une prime aussi? C'est une autre affaire, ça. Il y a des gens qui m'écrivent ça. C'est une question, c'est pas une affirmation. Deuxièmement, beaucoup de courriels sur le passeport vaccinal. Là. La troisième dose, elle est fortement recommandée pour les gens de 70 ans et plus. Juste vous dire que, parce que des fois, on mélange l'info, là. En France, pour le maintien du passeport vaccinal, en France, c'est 65 ans, là, il faut avoir la troisième dose. Ce qui n'est pas le cas ici, me dit-on. Parce que hier, ça a été très clair, là, c'est en option. Mais là, l'autre question que me pose, j'essaie de prendre les devants un peu, là, c'est, mettons que je vais aller en France. Est-ce que, puis j'ai 68 ans, mettons, ou 70 ans, est-ce que faut que j'aille mes trois doses? Est-ce qu'on va reconnaître mon passeport? Je lance ça, là. Puis on verra pour la suite des...
L'essentiel de Paul Arcand.
C'est 23.
Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas,
ou même très, très loin.
Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.